Voilà, comme ce matin c'était annoncé, on va parler de l'orgueil et de l'humilité. Et quelle est mon attitude face aux divers avertissements de Dieu? Vous voyez, il y a Dieu avertit, Dieu juge, Dieu sauve. Et c'est au travers la suite de notre série qu'on a commencé sur Daniel. Donc on va prendre Daniel 4 et 5. Voilà, je vous rassure, je ne vais pas tout lire. Mais je vous invite vraiment chacun et chacune à le lire chez vous. Quand on arrive au chapitre 4 et 5 et qu'on va les comparer, comme on va le faire ce matin, on remarque comment Dieu avertit, comment les personnes réagissent, comment Dieu est obligé de juger. Et Dieu est aussi obligé. Dieu fait grâce et Dieu sauve. Il y a vraiment des différences assez intéressantes et c'est ce que je vais vous proposer. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas toujours garde aux divers dangers qui existent sous des diverses formes. Nous sommes d'un côté encouragés à vivre comme on veut, et si on vit comme on veut, on n'a pas à nous dire comment vivre. Donc on n'a pas à être averti. Malheureusement, on a tous des faits divers dans nos vies qui nous ont dit des gens, des personnes qui ont mal fini, qui ont eu des accidents idiots parce qu'ils n'ont pas respecté une limitation de vitesse, ils n'ont pas respecté un taux d'alcoolémie. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. On leur a dit de faire attention. Je pense que tout le monde autour de lui a au moins une ou deux anecdotes comme ça, assez tristes, où les personnes ne sont pas laissées avertir. Pour prendre peut-être un exemple un peu moins grave, je ne sais pas si vous connaissez le pont du chemin de fer qui est près de la fonderie. Eh ben, il y avait un avertissement comme quoi que c'était trop bas. Et ils en ont eu tellement marre qu'il y ait tellement de camions qui s'embarquent dedans que maintenant, si vous y allez, ça clignote de partout. Il y a des gros panneaux qui avertissent parce qu'ils ont eu... Ils avaient même sa propre page Facebook pour dire à quel point tous les camions allaient dedans en disant « Non, c'est bon, ça passe. » Et en fait, ça ne passait jamais parce que ce pont est très bas. Donc voilà, c'était pour dire « On est averti. » Mais on va jusqu'au bout, et après, il faut réparer le camion. Et pour ceux qui ont été parents, qui le sont encore, qui l'ont été il y a longtemps, mais on a de beau dire aux enfants, attention, touche pas, ça brûle, ça, c'est chaud. Et combien de fois ils sont allés quand même toucher? Pour être sûr, parce qu'ils sont avertis, mais on veut quand même vérifier. Et dans un monde qui est sans Dieu, déchristianisé, on a le refus d'entendre les avertissements qui viennent de Dieu. Bah oui. Comment, nous, église locale, membres, pouvons-nous être porteurs d'un réel avertissement que Dieu a donné au monde? De dire, prends garde à ces avertissements, parce que ces avertissements, on les prend pour nos propres vies, mais aussi pour vous. Ce matin, donc, dans Daniel, on va voir comment c'est possible, et comment on va voir comment les géants peuvent réagir, et comment Daniel, qui représente, c'est-à-dire le chrétien en milieu hostile, représente tout ce qu'il doit être. C'est-à-dire le héros, dans le sens porteur de message, pas dans le sens héroïque, le héros de Dieu, en disant les choses telles qu'elles doivent être. Donc voilà. Chapitre 4 et 5 du livre de Daniel, voilà. Par manque de temps, moi, je ne lirai que des petits passages, mais je vais déjà recontextualiser où on en est. On a vu déjà certains nombres de choses. On a vu que Daniel et ses compagnons avaient été exilés par l'Empire néo-babylonien. On a vu qu'ils avaient fait 1000 kilomètres, que Daniel avait à peu près 13-14 ans à l'époque. On avait vu, ils avaient pris des jeunes. Il a été exilé en 605 avant Jésus-Christ. Il a été déjà mis à l'épreuve de la foi. Il a refusé les mets. On avait vu un jeune homme qui tient tête au roi du monde de l'époque. Et on voit que Daniel et ses compagnons vont vivre dans un milieu hostile, complètement hostile à leur foi. On va même les déjudaïser. Vous savez, vous vous rappelez tous les noms qu'ils avaient, on va leur donner de nouveaux noms. On leur fait oublier leur culture, les plats sacrifiés, les viandes, leurs rêves, la statue. On a vu tout ça ensemble. Et on a vu aussi comment ce roi est un peu comme un ado. Des fois, il va super bien, après il s'énerve de nouveau, après il va bien. Après, il s'énerve, il fait chauffer la fournaise 7 fois plus, il les jette dedans. Après, il est tout gentil. On a vu que c'est un roi qui est un peu, il est sanguin. Et mais on a vu aussi que ce grand roi arrogant a reconnu déjà la grandeur de Dieu par deux fois. Le Dieu de Daniel et le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est un Dieu particulier même pour lui. Donc là, on arrive dans le contexte, du chapitre 4. C'est un chapitre qui prend part dans Nabuchodonosor et le roi. Il se présente lui-même comme étant heureux et au summum de sa vie. Il est au summum de sa vie, donc, et il le dit lui-même. Humainement, c'est un homme de la réussite. Il va dire, moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Et là, on arrive, quelqu'un qui se présente comme je suis vraiment dans l'abondance. Voilà, verset 4. Et le verset 4 du chapitre 4, il dit « Je vivais heureux dans mon palais. » Voilà, tout va bien dans sa vie. Et on a le même contexte, parce que vous voyez, on va voir en parallèle deux rois différents. le roi dans Daniel 5, qui est longtemps après chronologiquement. Le roi dans Daniel 5, c'est Belshazzar. Et là aussi, on a quelqu'un qui vit bien, il y a de bonnes choses. Dans Daniel 5, verset 1, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Voilà. Là, on a vraiment on pose un contexte de ce qu'on va étudier. Deux personnages, deux rois, différents. Mais lorsque la situation commence, tout semble aller bien. Dans chaque situation, humainement, tout semble aller bien. Ils sont heureux, ils sont au pouvoir, tout va bien, on mange avec 1000 personnes. J'espère que c'est pas eux qui mettent la table. Mais voilà, tout va bien. Nabucodonosor, lui, il se présente comme « Hey, moi, Nabucodonosor, je vivais heureux. » Et pourtant, ces deux personnes vont être averties par Dieu d'une manière différente. Et on va voir comment ces deux avertissements vont se passer et comment ils vont réagir et quelle va être leur finalité. Voilà, là, c'est Dieu qui est averti. Et Dieu avertit par de nombreux moyens, hein, c'est ce que j'ai mis comme rappeler des rêves, des versets, des frères et sœurs. Alors, on peut être averti par pas mal de choses. Et là, on voit, Dieu annonce les choses d'avance, mais l'homme orgueilleux n'y prend pas garde. Parce que là, Nabucodonosor s'est présenté qu'il allait bien, mais après, tout de suite après, hein, la fin du verset 5, « J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'ai été poursuivi de sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Là, on a un changement. On a le roi qui se présente comme tout allait bien dans son palais, mais à un moment donné, il a eu un rêve qui l'a gêné. Mais non pas le petit cauchemar à être rassuré vite fait. Non, non, quand il se réveille, il est encore poursuivi, il était angoissé et d'épouvante. Alors on imagine, hein, l'épouvante, c'est quelque chose. Il est épouvanté. Et qu'est-ce qu'il va faire, comme on fait à chaque fois à l'époque, hein? Il fait venir les magiciens, les astrologues, les chaldéens, des gens, des devins qui lui disent « Attends, moi ça va pas, faut qu'on me dise ce qui s'est passé. » Et là, c'est ce qu'il va dire. Les avertissements, deux avertissements, deux jugements. Donc Nabucodonosor, on a vu, il a averti par un songe. Et alors, il va partout, mais en même temps, il demande à Daniel. Il se présenta devant moi, Daniel. Ça, c'est au verset 8. Nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu. Et lui est qui en lui l'esprit des dieux saints. Vous voyez, Nabucodonosor déjà présente Daniel. Il l'appelle pas Belshazzar, mais il l'appelle Daniel. Et il dit qu'en lui, il y a quelque chose de particulier. Et pour qui aucun secret n'est difficile. Donc là, il a l'espoir que Daniel, et il a dit, c'est sa bouée de sauvetage là, Daniel. Il dit, Daniel, s'il te plaît, dis-moi ce qui va pas. Là, je suis angoissé, j'ai quelque chose qui va pas bien. Je vais te livrer un secret. Toi, je sais que tu peux me le dire. Là, il place foi, non pas en Daniel, mais dans l'esprit qui est en Daniel. Par manque de temps, on va pas faire le rêve, hein, ceux qui connaissent, sûrement, je vais juste le résumer. Voilà, Nabucodonosor a fait le rêve d'un grand arbre qui pousse et puis qui est très grand, hein, vous le voyez là. Et c'est ce qu'il voit, c'est qu'après cet arbre est coupé. Cet arbre est coupé, mais on laisse la racine, mais cet arbre est coupé, les branches sont tombées. Et les feuillages, les fruits sont dispersés. Il y a une force qui lui dit « Abattez cet arbre. » Quelqu'un de l'extérieur. « Mais laissez en terre le tronc, ça c'est au verset 15, où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. » Et ça, c'est... Voilà, le roi est épouvanté par tout ça. Et Daniel, comme je le disais, il va se placer en porte-parole de Dieu. Au chapitre 4, versets 24 et 25, hein, voilà ce qu'il va dire. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut, qui accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Donc le roi de Babylone est sous un jugement qui vient, et un jugement du Dieu qui est le Très-Haut. L'avertissement est très clair. Ce que tu fais, c'est pas bon. Repens-toi, donne gloire à Dieu. C'est ce qu'il dit, hein, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. On a Daniel qui donne cet avertissement, et il pousse même la hardiesse, hein, au verset 27. Voilà. Daniel s'adresse quand même au roi tout-puissant de l'époque. C'est-à-dire, Nabuchodonosor, c'est la tête d'or, hein. C'est-à-dire, c'est le roi tout-puissant de l'époque, et Daniel, lui, lui dit, au verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà. Alors, clairement, il lui annonce la repentance des péchés. Il dit, arrête de faire ça. Alors, nous, on lit. On dit, ouais, c'est bien, Daniel. Mais là, il risque sa vie, hein, de reprendre le roi. Le roi lui demande des explications, il ne demande pas de conseils. Mais voilà, Daniel se sent obligé, il dit, voilà, il y a une confiance qui s'est établie, et Daniel n'a jamais caché qu'il servait Dieu. Il n'est pas une hardiesse près. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, rachète tes péchés par des bienfaits, et tes iniquités par des compassions envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, mais qui n'est pas définitif. Il dit, il y a une possibilité, t'as été averti. Il y a une possibilité. C'est pour ça que Dieu annonce les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme orgueilleux n'y prend pas garde. Le roi n'a donc pas d'excuse face à l'avenir. Il a demandé l'explication, on lui a donné l'explication. On lui a même donné un conseil pour éviter. Dieu l'a personnellement prévenu et il a chargé Daniel aussi de souligner, attention, quelque chose arrive si tu changes pas. Il y a quelque chose qui vient. Et moi, je suis un peu comme ce roi. Pas toujours, heureusement. Dieu me montre par des frères, par des situations, par mon épouse, par des versets, par des enseignements, que quelque chose ne va pas dans ma vie. Que ça va pas bon. Là, faut changer, faut évoluer. Mais je m'y accroche. Je m'y accroche jusqu'à ce que ça devienne quelque chose, eh ben, qui peut jusqu'à épouvanter nos vies. Pas forcément à ce point que le roi de Babylone, mais c'est des choses qui peuvent nous empoisonner. C'est des choses qui peuvent nous ralentir. C'est des choses qui nous empêchent de vivre dans la communion. C'est des choses qui nous coupent de finalement l'Église, qui peuvent nous couper de nos frères et sœurs et nous couper de la relation qu'on a avec Dieu. Parce qu'on s'y attache. Parce qu'on veut s'y attacher. Ne pensons pas que c'est l'apanage que des autres. Comme il a été dit dans nos prières, on est tous conscients que notre orgueil est encore là. Il est en partie brisé, il est en partie, j'allais dire, lié, mais l'orgueil a tellement vite fait de revenir. Et par orgueil, on est toujours prêt à tenir quelque chose en disant « c'est forcément de Dieu ». Et des fois, des frères et sœurs nous disent « attention, t'es sûr ?»« Ouais, je suis sûr ». Parfois, on va en goutte devant de très grandes choses qui peuvent être terribles pour nous. Prenons au sérieux les avertissements de Dieu pour nous, pour nos familles, pour l'Église ou pour l'Église. Discerner les temps où nous vivons, c'est discerner aussi les avertissements clairs dans la Bible, qui poussent à nous remettre en question déjà personnellement, en Église, en famille, en couple. Il était clair que de toute manière, le cœur de l'homme ne changera pas facilement. Dans 2 Timothée 3, versets 1 et 5, Paul parle encore à Timothée. Pourtant, depuis Daniel jusqu'à Paul, il y a le temps qu'a passé, mais le cœur n'a pas changé. Il va dire, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront après à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne veulent rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Vous voyez là, il parle de religieux. Paul dit à Timothée, il y a des gens dans certaines églises qui vont arriver à la fin, ils vont avoir une apparence, mais ils voudront surtout jamais, jamais connaître la grâce de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui finalement nous humilie, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu dans notre orgueil. C'est impossible. On ne peut pas aimer deux maîtres, hein, si moi, je n'aime pas Dieu. Pas dans le sens, je me place en Dieu. Hein. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se mépriser, ne pas s'aimer. Je dis juste, si moi je m'aime au point de remplacer Dieu, c'est de l'orgueil. Et là, Paul, il dit, hein, attention, ils seront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais ils refuseront, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables. Ça c'est 2 Timothée 4, 3 et 4. Paul prévient, attention, il y a quelque chose qui va venir sur l'Église, parce que là il s'agit d'Église, c'est ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire le refus d'une foi véritable. Une foi qui donne de faux espoirs, une foi transformée, une foi qui ne passe plus en Jésus-Christ seul. Mais c'est là où Paul donne déjà des avertissements dans sa parole. Il prend pas l'Église au dépourvu, il dit pas « je savais pas, Dieu sait qu'on avait besoin de ses écrits » en disant « un jour, il faudra que l'Église fasse aussi attention de ce qui est enseigné, de ce qui est vu, de ce qui est entendu. » La Bible nous informe en tant qu'Église, c'est-à-dire avec un grand E, mais aussi en tant qu'Église locale, que dans ces temps-là, à la réalité du monde, il y aura des choses difficiles. Et c'est comment on réagit à ces avertissements. Comme le roi de Babylone, parfois nous sommes soucieux. Il y a quelque chose qui me donne du souci, mais on veut pas réellement changer. Le roi de Babylone, il voulait un résultat à court terme. Libère-moi de mon épouvante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est ça. Ok. C'est... Ouais, merci Daniel. C'est bien. Merci, c'est cool, je vais mieux. Je sais qu'il y a ça, mais j'ai pas envie vraiment de changer. Hein. Et c'est pour ça qu'après vient le jugement. Vous voyez? Parce que Dieu l'a averti, mais il n'a pas changé. L'homme orgueilleux, l'orgueil de l'homme. Ça, c'est, bon, c'est quelques images, on est d'accord. Ça, c'est quand il se promène à Babylone. Hein. C'est la suite. C'est toute la suite au verset 28 hein, du chapitre 4. On a juste l'avertissement de Daniel hein, qui lui dit « Repens-toi de tes péchés, attention, fais les bonnes choses et ton bonheur pourra se prolonger. » Mais au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Un an. Il a fallu un an et il a oublié toute l'angoisse de son rêve, tout ça. La Bible, elle fait un verset. Hein. Et c'est ça qui est, j'allais dire, qui est construit. C'est-à-dire qu'on a l'avertissement de Daniel et la manière dont le roi ne l'applique pas. Des fois, j'ai un avertissement dans ma vie, « Ouais, merci mon frère, et je recontinue. » Mais là, Nabuchodonosor, hein, on voit, hein, il n'est pas qu'un homme, là. C'est lui qui a construit, dit par la... Il a dit, comme la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Là, c'est l'orgueil de... Bon, il est le roi du monde aussi, hein, donc c'est pour ça qu'il peut se permettre, j'allais dire. Pour sa part. Mais qu'est-ce qui se passe? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On t'en chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il te donne à qui lui plaît. Et au même instant, la parole s'accomplit. Nabuchodonosor fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux, poussent comme les aigles, comme les plumes de l'aigle, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Voilà, Dieu a accompli ses plans, y compris les jugements, et l'homme orgueilleux, il est détruit. Pas de la manière dont il voulait forcément, mais on passe d'un homme qui se promène dans ses palais, l'orgueil, et on voit une bête. Et finalement, la grandeur de cet homme, elle a disparu. Et nous, on avait un grand jugement sur notre vie, qui était encore pire que celui d'être comme une bête, c'est celui d'être séparé éternellement de Dieu. Ce jugement, il a été pris à la croix. Et si nous sommes là ce matin, j'espère que nous sommes plus sous ce jugement de mort et de séparation, parce que nous avons accepté la croix. Mais on a toujours des problématiques de ne pas faire de Christ notre centre. On l'a chanté. Que Dieu soit le centre de ma vie, que le Seigneur soit mon centre. Que le Seigneur soit celui qui soit tout pour moi. Et je confesse simplement que c'est pas vrai. Des fois dans ma vie, il n'est pas forcément le premier. Parce que j'ai du mal. Je résiste par tout ce que je crois connaître. Et s'il y a des électriciens dans la salle, vous savez que la résistance s'exprime en ohm, parce que l'homme résiste beaucoup à Dieu. C'était un collègue qui nous avait dit ça un jour, et je trouvais ça assez amusant de le retenir. On fait que résister, en fait. L'homme va résister encore et toujours. Dans un monde incroyant, alors là, c'est encore pire, hein, dans le monde incroyant. On se moque des avertissements de Dieu. Paul ira jusqu'à dire, la prédication de la croix est une folie. La croix, on n'en veut pas. Et cela nous amène alors à être comme Daniel. Abandonne ton orgueil. Repens-toi. Et repens-toi de tes péchés. En Jésus-Christ. Et un monde différent s'ouvrira. Parce que le monde est indifférent face au plus grand et au plus beau avertissement de Dieu pour l'humanité. La croix, érigée il y a plus de 2000 ans à Golgotha. C'est le plus bel avertissement que Dieu a donné. En disant, par ça, moi je sauve l'humanité. Pendant mon amour, je sauve l'humanité. Prends garde à ce qui s'est passé là. Jésus est mort pour toi, pour moi, pour nous. Il a accompli parfaitement ce que nous pouvons jamais faire. Et ça, c'est le plus bel avertissement. Mais victime de notre orgueil, nous avons eu du mal, peut-être les uns et les autres, à le reconnaître. Et aujourd'hui, on l'a reconnu, et on est encore entaché par cet orgueil. Alors que ceux qui sont autour de nous, qui ne l'ont pas reconnu, bah, puissent aussi être comme Daniel, d'accomplir, de parler autour de nous. Vous êtes victime de l'orgueil, mais n'est-ce pas le premier péché, l'orgueil que Satan a eu dans son cœur en voulant être plus que son Créateur? Donc là, on a vu, hein, là, c'est le roi Nabuchodonosor qui a été interpellé par un rêve, qui, dans son orgueil, n'a rien fait pour changer, et que Dieu a été obligé d'accomplir ses plans. Et maintenant, on a un autre roi. Lui, c'est celui qui s'appelle Bel protège le roi, hein, Belshazzar, il porte quasiment le même nom que Daniel, qu'on lui avait donné. Belshazzar, lui, il est co-régent avec son père, Nabonide, qui était dans un exil plus ou moins volontaire à la fin de l'Empire néo-babylonien. Belshazzar et Nabonide, c'est les derniers régents. Et du coup, c'est ce que je vous avais annoncé à l'époque où on a commencé Daniel. Comme Belshazzar, on l'a découvert qu'au 19e siècle, qu'à la moitié du 19e siècle, les gens disaient, ben Daniel, c'est faux. Parce qu'il n'y a jamais eu de roi Belshazzar. Ben en fait, si. Parce qu'il était co-régent, il était roi de Babylone, parce que son père avait été exilé. Donc Nabonide était connu, mais lui moins. Et on a retrouvé sur des tablettes qu'il était effectivement roi de Babylone à l'époque où la Bible l'annonce. Donc ce roi, il va régner sur Babylone, hein, mais c'est l'Empire qui est en décadence, hein. Il règne de 553 jusqu'en 540, qui est la chute de l'Empire, 39-40. Et nous lisons dans la Bible que c'est le soir de cette histoire que, que les rois babyloniens cessent d'être la tête d'or. Bien que la Bible ne va pas parler des avertissements que Dieu adresse au roi, nous avons un verset qui va nous indiquer que Belshazzar connaissait, il avait été averti par ceux qui l'avaient précédé, qu'il y avait un Dieu, autre que les dieux qu'il connaissait. Parce que dans Daniel 5, verset 22, il dit « Et toi, Belshazzar, c'est Daniel qui lui parle, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu connaisses toutes ces choses. » Dire Belshazzar, c'est quelqu'un qui connaissait, alors c'est pas directement le fils de Nabuchodonosor, mais on l'appelait fils parce que c'était celui qui était héritier du royaume, et il connaissait Daniel. Il connaissait les hauts faits. Vous savez, à chaque fois, aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, mais on écrivait tout. Aujourd'hui, on prend en photo, on fait un blog. Mais là, ils écrivaient tout. Toutes les archives sont écrites. Donc, ils connaissaient toutes les histoires qu'il y a eu avec le rêve, toutes les histoires avec la fournaise ardente. Ils connaissaient tous les décrets que Nabuchodonosor avait fait en disant dans le dieu d'Abednego est un grand dieu. Il connaissait ces choses. Il en connaissait même peut-être autres. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Le roi Belshazzar donna un grand festin avec ses grands nombres de 1000. Voilà. Lui, il sait les choses, mais on va voir qu'il va pas du tout se comporter de la bonne manière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Animé par le vin, il fait apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Vous avez vu? Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Bon, à part que l'abus d'alcool est dangereux, ça je pense qu'on le sait. Mais là on a un roi qui se permet quelque chose que jamais personne n'avait fait avant lui. Vous savez, Nabuchodonosor, il a pillé le temple de Jérusalem, il a mis le feu. mais il a tout pris et il avait tout mis dans les temples de son Dieu. Alors, c'est pas bien, mais il avait tout laissé là. Il n'avait jamais utilisé quoi que ce soit pour faire autre chose que, ben voilà, c'est à leur Dieu, je le donne au mien. Les choses divines, voilà, il y touchait pas trop. Mais lui, il va pas faire ça. Lui, il va se dire, ben tiens, moi, on est roi, on est bien, on va boire dans d'autres choses. Et il va aller prendre ces vases d'or qui étaient consacrés à l'Éternel. Et il va boire, et non seulement il va boire et se réjouir, mais en plus, il va adorer et louer d'autres dieux. Donc nous, on n'a pas l'impression, parce que c'est vrai, la question de sainteté, de sacré, ça a un peu disparu. On se dit pourquoi, mais quand vous lisez, on a lu ensemble hein, l'Exode, vous avez vu quand c'est consacré, quand Aaron est consacré au sacerdoce lévitique, on a vu aussi que tous les ustensiles du tabernacle sont consacrés. Personne n'a le droit de les utiliser si ce n'est le prêtre. Et encore, il faut qu'il se lave les mains, il y a des rituels. Il y a quelque chose de sacré. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, on a cette grâce. Mais la sainteté de Dieu est telle que ces instruments ne devaient pas être manipulés par n'importe qui, ni n'importe comment. Et le temple de Salomon sera pareil. Ils vont faire, quand ils vont faire la Hanouka, donc la dédicace, tout va être sanctifié pour servir. Et lui, ce qu'il en fait, c'est n'importe quoi. Et en plus, il loue d'autres dieux. Donc là, l'homme orgueilleux n'y prend pas garde. Il a eu des mises en garde, mais il n'y fait pas attention. Allez, allez, amenez-moi ça. Allez, on va boire. Et on va s'amuser. Et là, la joie est à son comble. Hein. On voit, il loue Dieu, on imagine, avec le vin, avec tout ça. On imagine un banquet de 1000 personnes, ça doit être bruyant. Et là, je pense que ça devait être la joie. Je suis jamais allé dans un banquet royal de 1000 personnes, mais je pense que ça devait être tranquille, quoi. Et tout le monde va chanter ses chants, là, chacun avec son Dieu. Et le vin qui donne un peu l'esprit joyeux, voilà. On a des gens qui ont le cœur léger. Et voilà ce qui arrive. Dieu va juger. Alors que la joie est à son comble, une main vient tracer des mots sur le mur. Et je pense que l'expression « jeter un froid » n'est pas inutile ici. Et là, on a une terreur incroyable. C'est au verset 5. Hein. « En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme qui écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force. » Qu'on fit venir des astrologues, des chaldéens, des devins. Vous imaginez, hein, on a un roi joyeux, là il a dessoulé direct. Hein. Il voit ça, et il est rempli de terreur. Alors je suis pas biologiste, mais voilà, là ce qu'ils ont dit, c'est que finalement, voilà, le roi il s'est pas retenu. Quoi. Il a tellement eu peur que tout à la... Alors pour un roi hein, de sa stature, un homme de sa stature, devant tout le monde comme ça, il est tellement pris que là il y a un changement brutal, il y a deux ambiances là. Un changement brutal. Il sait pas ce qui se passe, mais il sait que c'est pas bien. Et comme d'habitude dans les rois, hein, vous voyez, ils gardent la même habitude. Ils font venir ceux qui sont censés savoir. Mais ils sont tous très, très, ils ont très peur. Hein. Le roi Belshazzar, voilà, il change de couleur. Hein, il est très effrayé. C'est quelqu'un qui, là, il est pas bien. Alors il va faire venir Daniel. Parce que lui il veut pas, parce qu'il à l'époque hein, Daniel était mis en ban de la société, enfin de la cour, parce que justement Nabonide et Belshazzar n'aimaient pas Daniel. Alors la reine elle lui dit mais attends, il y a quelqu'un au roi vit éternellement, hein, au verset 10. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux siens. Et du temps de ton père, on trouva chez lui la lumière, l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, l'avait établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Donc ça corrobore, hein. Daniel était connu. La reine, elle le connaît. Lui, il le connaissait sûrement, même si c'était qu'un détail dans sa vie. Mais Daniel était connu. On connaissait son Dieu, on connaissait sa sagesse, on connaissait ses points de vue. Et là, on va chercher Daniel, qui avait été un peu oublié, on va le chercher. Et Daniel, il est toujours fidèle à lui-même. Ça, c'est assez incroyable si vous lisez l'ensemble du livre de Daniel. Daniel, lui, vient, il fait ce qu'on lui demande. Et déjà, il va dire, hein, au verset 22, hein, « Toi, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces ces choses. » Et il va lui dire, « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de la maison étaient apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Et tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent point, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. » C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici ce qui a été tracé, compté, compté, pesé et divisé. Et voici l'explication de ces mots. Compté, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà, le jugement, là, il tombe. Là, c'est Méné, Méné, Tekel, Oussarim, ça c'est dans la version originale. Voici l'écriture qui a été tracée. Et on voit la panique. Et là, le jugement est sans appel. Daniel, il lui dit, t'as fait ce qu'il fallait pas faire. Aujourd'hui, tout ce qui fait ta gloire, tout ce qui fait ta réussite, tout ce qui fait ta grandeur, t'es ôté, c'est fini. Babylone s'arrête aujourd'hui, c'est les Mèdes et les Perses. Ne laissons pas le monde et ses divertissements nous éloigner de la parole de Dieu et de donner gloire à quelqu'un d'autre que Dieu. Nous devons lui rendre gloire, nous chrétiens, plus que tout autre. Ne laissons pas une fête, un moment, une discussion laisser distraire au point de ne pas rendre gloire à Dieu. Je suis coupable parfois parce que je ne rends pas gloire à Dieu quand je suis avec des collègues qui ne sont pas chrétiens. J'ai dit sous prétexte de ne pas heurter les gens, mais en fait c'est une manière de me cacher. Parce que la gloire de Dieu, eh ben, dans nos vies, dans ma vie, elle est importante. Je suis conscient que c'est par la grâce de Christ et par la croix que j'ai obtenu un accès à Dieu. C'est un grand privilège. Et je dois au moins l'affirmer. Dans les moments même, j'allais dire mondains. Là, ce roi débauché, il a rapidement compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il était bien, il allait dans son truc. Par c'est ce qui est arrivé, il a vu tout de suite que ça allait pas. Et on voit, il garde pourtant l'espoir, hein, parce qu'il dit, celui qui me donnera l'explication, je le ferai de lui mon second, je lui donnerai des richesses. Et Daniel, lui, il n'en veut pas, quoi. Il dit, ça sert à rien, tu vas mourir, en fait. Et là, c'est là où on a deux jugements, parce qu'on a deux comportements différents. Donc on commence par le jugement, là, Dieu va condamner. Là, on a eu la condamnation du jugement. Dieu se prépare à juger le monde, et Dieu condamne les hommes orgueilleux. Parce que Belshazzar ne s'est pas remis en question. Il a su, il a fait, mais il n'a pas remis en question. Daniel était, il avait répondu, en présence du roi, verset 17, « Garde tes dons et accorde-les à quelqu'un d'autre. Garde tes présents. » On l'a chanté, hein. Je ne veux pas l'or, je ne veux pas l'argent. Garde ça. De toute façon, ça durera pas. Et lui, il le sait. Mais c'est l'arrogance. Ce qu'il dit au verset 20, « Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes et son cœur devint semblable à celui des bêtes. » Là, il parle de ce qui est arrivé à Nabucodonosor. Mais Belshazzar, lui, il n'aura pas le temps, j'allais dire, même de comprendre ce qui se passe, parce que le soir même, il le dit, hein, au verset 30, « Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chadéens, fut tué. » Voilà, cette nuit même. Il faut savoir qu'à l'époque de Belshazzar, hein, alors qu'il donne un banquet de 1000 personnes, il y avait déjà des personnes de son armée qui lui disaient « Les Mèdes et les Perses arrivent. » Donc non seulement il veut pas attendre les avertissements de Dieu, mais il voulait visiblement rien entendre du tout. Parce que il a dit non, nous on va vivre dans un espèce de fantasme de royauté qui voulait s'accrocher à sa royauté, alors qu'ils avaient déjà perdu. C'était clairement, ils étaient au pied de Babylone, vu que le soir même, il est mort. Dans son orgueil, ce roi s'est oublié. Il a oublié la sainteté de Dieu en profanant des objets du temple, en louant d'autres dieux. Malgré les différents avertissements de Dieu, par ses pères, par l'histoire de ses pères, il a amené un jugement sur lui qui va amener à la mort. Lui, condamné, vous voyez, tout roi qu'il est, il va perdre tout en une nuit. Parce que le pire, c'est de perdre quand même la vie, parce que c'est Si c'est une vie où on n'a pas reconnu le Seigneur comme notre Dieu, eh bien, c'est une vie qui va être condamnée aussi dans l'éternité. Et là, on a un autre jugement. Voilà, Dieu se prépare à juger le monde, mais Dieu fait grâce et sauve celui qui se repent en Jésus-Christ. Mais Dieu, il a un autre plan. Et si on peut lire, on peut lire dans Daniel 4. Et ça, c'est en ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers me redemandèrent. Et Nabuchadnezzar, voilà ce qu'il va dire. Et la raison me revint, et j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Ça c'est Daniel 4, verset 37. Mais si je ne dis pas que c'est Daniel 4, verset 37, ça peut être, j'allais dire, n'importe lequel d'entre nous. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, et les habitants de la terre, et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise « Que fais-tu ?» C'est une belle déclaration. Je le rappelle, dans quelqu'un qui est un roi de Babylone. C'est surprenant. Là, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de cap pour lui. Parce qu'au temps marqué, hein, moi, Nabuchadnezzar, je levais les yeux au ciel. Donc Nabuchadnezzar, il est transformé en bête, il mange du foin, et d'un coup, il lève les yeux. C'est une belle métaphore, ou une analogie de ce que nous avons fait un jour. Un jour, on a levé les yeux sur ce qu'on était, et on a rencontré, enfin, Jésus nous attendait sur le chemin. Parce que dans notre misère, on voyait pas qu'on était comme des bêtes. Alors, pas de manière... j'allais dire littéral, de manière de vivre, spirituellement mort. Et un jour, on a tous levé les yeux, et aujourd'hui encore, on lève les yeux vers cette croix, quand ça va pas, même quand ça va aussi, pour ne pas oublier que c'est celui qu'on doit glorifier, et c'est lui qui vit éternellement. Et voyez la différence entre ces deux rois. Il y a une grande différence. Il y en a un qui a reconnu, il était très orgueilleux, c'est moi qui ai tout bâti, c'est la splendeur de ma gloire. Et là, il est plus du tout dans le même registre. Il n'est plus du tout dans le même registre. Il s'est humilié. Il a loué et glorifié un Dieu. Mais attention, c'est que pour un roi de Babylone, c'est un Dieu qui n'est même pas le sien. Il loue le Dieu des Juifs. Cette judaïté qu'il a tout prix voulu gommer depuis qu'ils sont arrivés. C'est vrai que nous, et moi le premier, on n'a pas toujours l'impression des enjeux en fait spirituels qui existent. Mais ce roi qui se met à adorer un Dieu qui n'est pas le sien, à l'époque, vous savez que les rois ils devaient louer un dieu en particulier, celui Marduk qui était le dieu de la destruction et qui chevauchait un serpent et qui était le dieu des Babyloniens. Ça, tu dois louer celui-là, t'es le roi, t'as ce dieu-là. Et lui, ben, il l'a plus. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y a eu cet orgueil qui est transformé en une humilité. Et moi, Nabuchadnezzar, il dit à la fin, de verset 37, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, les voies sont justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alors la Bible, elle dit pas ce qu'il est devenu, mais moi je me dis, c'est un roi chrétien, là, dans le sens biblique du terme. C'est un roi qui a découvert Dieu, après plusieurs avertissements, il y en a eu, il y a plusieurs fois qu'il a vu Dieu sans vraiment le reconnaître, mais là, il l'a clairement reconnu. Après, la Bible dit pas ce qu'il est arrivé, mais moi je me dis, ça a dû chambouler pas mal Babylone. Après, comment il a vécu, ça, on le sait pas. Mais là, il a fait une belle déclaration. C'est-à-dire une déclaration publique, vu qu'il l'a écrit. Une déclaration publique de qui il croyait et de qui il était. Moi, Nabuchadnezzar, je loue le Dieu très haut. Au bout d'un temps, le roi va rendre gloire à Dieu. Cette déclaration incroyable. C'est la manière inverse que Belshazzar. Belshazzar, il est détruit. Lui, il est rétabli. Ah, voilà. On résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et Dieu fait grâce et il sauve. Et il en a conscience. C'est pas lui qui s'est sauvé. Il a conscience que c'est sa grâce. Il dit, tu fais tout ce que tu veux, en fait. Tu donnes le royaume à qui tu veux. Et on peut conclure, que le jugement n'est pas toujours sans appel. Dieu amène sur nous le jugement pour nous faire évoluer dans le bon sens ou des avertissements. Attention, attention. parfois une épreuve, des fois comme un coup de massue, qui nous fait réfléchir de la grandeur de Dieu, qui nous fait nous séparer des fois des choses qui nous comblaient. Des fois, on est obligé d'avoir un coup de poing, un coup de massue, pour se séparer de ce qu'on pensait utile. Tout comme le roi, après, nous bénissons Dieu pour le don de Jésus-Christ, pour cette croix qui a changé notre vie. Il nous reste toujours de l'orgueil en nous, hein. C'est tout ce qui découle, mais que Dieu nous invite à prendre au sérieux les avertissements qu'il peut mettre. Notre entêtement qui parfois se confond avec, on confond un entêtement et une volonté de servir avec de l'orgueil mal placé. Le jugement à l'épreuve est là pour nous éprouver comme au travers du feu, dira la Bible. Que nous puissions nous relever la tête, comme le roi l'a fait. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, hein, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et on voit que Dieu nous a parlé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette croix, Dieu sauve encore aujourd'hui, parce qu'il nous a parlé autrefois à plusieurs manières, par les prophètes. Dieu, dans ces temps, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà, Dieu parle. C'est pour ça que l'humanité ne sera pas excusée, ni excusable. Dieu a parlé, Dieu parle encore, à la croix. N'oublions pas que Dieu, il a donné sa vie par amour, il a donné la vie de son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 2 Pierre, hein, 2 Pierre 8, 9, « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, on l'a lu aussi dans le psaume, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. » Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que voulant qu'ils arrivent à la repentance. Voilà, que vraiment chacun de nous puissions nous regarder nos vies, voir qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que le Seigneur m'a averti, où le Seigneur m'a averti, ou comment puis-je aussi avertir ceux et celles avec qui je travaille et qui ne font pas attention à la croix. Comment je peux faire? Comment je peux être comme Daniel? On va le chercher, n'importe quelle heure, debout, franchement, il annonce le jeu. Il annonce à un roi, tu vas mourir. Il annonce à un autre, arrête, sois pas orgueilleux, repends-toi de tes péchés. La notion de péché ne voulait rien dire, hein. C'est lié au Dieu d'Israël, le péché. Ça veut pas dire beaucoup dans les autres religions. Mais il lui dit, attention, est-ce que je suis comme ça? Du coup, Pierre y poursuit dans ses exhortations, hein, que je nous laisse à chacun. 2 Pierre 11, 14. « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre et qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause desquels les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible dans la paix. » Voilà les avertissements aussi que la Bible nous donne. Que le Seigneur nous avertisse, que nous puissions les prendre au sérieux, que nous puissions mettre notre orgueil au placard, bien que c'est difficile, parce qu'il faut un placard très grand. Et que le Seigneur nous brise, nous travaille, et nous façonne pour que nous soyons trouvés sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Et ça regarde chacun de nous, mais ça regarde aussi l'Église. Parce que l'Église locale sera le reflet de ce que les membres sont. Voilà, donc prenons au sérieux que notre identité, elle est de toute manière en Jésus-Christ par son Fils à la croix.